Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 26. Comme je ne pourrais pas le lire en entier, il comporte 75 versets. Je vous invite à l'étudier vous-même, de préférence avant d'écouter mes commentaires et mes explications. Je veux dire, c'est l'avantage quand même de ces messages audio qu'on peut écouter quand ça nous chante. Au début de ce chapitre, Jésus annonce à ses amis que dans 2 jours, il va devoir mourir, crucifié. On est mardi et la Pâque juive tombe cette année-là sur un jeudi. Les autorités juives complotent sa mort. Je cite le verset 5. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Fin de citation. Nous savons que l'agneau qui, chaque année, devait se faire immoler à Pessah, la Pâque juive, n'était qu'un signe précurseur de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui serait tué ce même jour pour le salut du monde. À travers les évangiles, nous pouvons observer comment Satan a tout essayé pour faire de sorte que Jésus ne meure surtout pas le jour de Pâques, afin de contrecarrer la mort expiatoire du Christ. Sans savoir qui dirigeait leurs pensées, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple suivaient la volonté du diable. Mais Dieu est vainqueur en toutes choses et sa parole s'accomplit toujours. Nous lisons qu'ensuite Jésus est allé à Béthanie et que Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, a oint la tête du Christ avec du parfum précieux. En fait, l'onction des pieds et de la tête était une marque très habituelle d'hospitalité et de déférence. Marie avait, peut-être elle seule, compris que sous peu Jésus allait vraiment mourir. Et en faisant ce qu'elle a fait, elle a préparé le corps du Christ à l'ensevelissement. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Entre-temps, Judas est allé voir les principaux sacrificateurs et leur a dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et lui ont payé 30 pièces d'argent, 30 sicles d'argent, disait à l'époque. Voici l'origine de cette somme d'argent précise. Dans le livre de l'Exode, nous lisons que si un bœuf occasionnait la mort d'un esclave, le propriétaire de l'animal devait payer 30 sicles d'argent comme dédommagement au maître de l'esclave. Je lis le verset 32 du chapitre 21. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Cette somme correspondait donc à la valeur d'un esclave mort et devint ainsi un symbole de mépris profond. Que le Christ serait un jour trahi pour exactement cette somme fut annoncé dans le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 12. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. À partir de verset 17 dans chapitre 26 de Matthieu, nous sommes jeudi. Dès le coucher de soleil commence la fête de Pessah, de la Pâque juive. C'était le premier jour des pains sans levain. Le levain symbolise le péché. Encore aujourd'hui, chaque demeure doit être nettoyée de fond en comble avant ce jour afin d'être sûr qu'il ne se trouve même plus une seule miette de levain. Jésus est celui qui accomplit ce commandement puisque personne n'est sans péché en dehors de lui. Il est le véritable agneau sans défaut, sacrifié une fois pour toutes afin que nous puissions trouver la paix avec Dieu. Et il est le pain sans levain, nous allons y revenir dans un instant. Je vous invite, si vous en avez le temps, après avoir écouté cet épisode, à lire la signification de ce jour sous l'aspect de ce que Jésus a fait pour nous. Vous la trouverez, cette signification, dans l'épître de Paul aux Hébreux à partir du chapitre 9, verset 11, jusqu'au chapitre 10, verset 18. Je répète, épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9, verset 11, jusqu'au chapitre 10, verset 18. Lorsqu'arrive le soir de ce jeudi, Jésus se met donc à table avec les 12 disciples. Lui, il sait que sous peu, son ami Judas va le trahir. Il en parle même, mais ses amis ne comprennent pas. Judas faisait partie de leur groupe, il était un d'eux, ses amis ne s'y attendaient absolument pas. Et il continue de célébrer la Pâque comme si ne rien n'était. Je reviendrai sur le rôle qu'a joué Judas dans un instant. J'aimerais d'abord dire un mot sur ce qu'on appelle communément l'institution de la scène, c'est-à-dire le moment où Jésus prit le pain, puis le vin, et dit à ses disciples qu'il s'agit là de son corps et de son sang. Je ne veux pas m'attarder sur des questions théologiques à ce sujet, mais pour sûr, cette scène n'a pas ressemblé à ce que ressemble la scène ou l'Eucharistie dans les églises d'aujourd'hui. Jésus et ses amis fêtaient donc la Pâque. C'est dans ce cadre que les convives mangent de la matza, c'est du pain non levé. L'origine de ce pain vient de l'exode des Hébreux, parce que lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, ils n'ont pas eu le temps pour laisser le pain levé. Le résultat donnait quelque chose comme ce qu'on a appelé la matza. Ce pain préfigurait le Christ qui est le véritable pain de vie. Dans Jean 6, 35, nous lisons ces paroles de Jésus. « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voici à quoi Jésus se réfère dans ses paroles. Dans le rite du repas de Pâques, qu'on appelle Seder, figurent également quatre coupes de vin. Pourquoi quatre? Le nom Yahvé a quatre syllabes en hébreu. Et il y a quatre coupes de vin, et chaque coupe a sa propre signification. Première coupe, la coupe de bénédiction ou coupe d'action de grâce. La deuxième, la coupe des plaies, symbole des 10 plaies qui sont abattues sur l'Égypte. Troisièmement, la coupe de la rédemption, symbole de la rédemption physique d'Israël de l'esclavage en Égypte, préfigurant la rédemption spirituelle de l'esclavage du péché par Christ. Et quatrièmement, finalement, la coupe de louange, donc la quatrième coupe, et c'est d'elle qu'il s'agit dans notre évangile, puisque nous lisons dans le verset 30, « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Ils ont chanté ensemble. C'est joli de s'imaginer que Jésus chantait avec ses disciples. Effectivement, ils chantèrent le Hallel, ou une partie du Hallel. Le Hallel consiste en 6 psaumes, les psaumes 113 à 118. Ma compréhension de ce passage est qu'à chaque fois que nous entamons un repas, nous devons nous rappeler que le vrai pain qui assouvit notre faim à jamais est le Christ et non pas ce qui est sur notre assiette. De même pour le vin ou pour toute autre boisson. Il n'y a que le Christ qui a versé son sang pour la rémission de nos péchés qui peut vraiment étancher notre soif. Ne restons donc pas collés au bien d'ici-bas, mais gardons le regard fixé sur Jésus et sur les valeurs éternelles. Dans le reste de ce chapitre, nous observons l'échec des hommes face à la force souveraine du Christ. Voyons d'abord la défaillance. Le premier exemple est Judas. C'est vrai que sa trahison était nécessaire à la mission de Dieu en Christ. Néanmoins, Judas portait seul la responsabilité de ses actes, comme nous tous nous portons la responsabilité de nos actes. Je cite Jésus. « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Terrible parole du Christ. Deuxième exemple de défaillance, Pierre. Après que Jésus ait annoncé qu'il serait pour tous ses amis, je cite, une occasion de chute, Pierre s'écrie, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus qui lui répond, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » En disant que même si tous les autres devaient défaillir, lui jamais, il mettait clairement en doute les paroles du Christ. C'est grave. Et dans son amour enthousiaste, Pierre fait preuve de vanité. Nous le savons, il a effectivement renié Jésus 3 fois. Autre défaillance de Pierre, lorsque Jésus se fit arrêter, il tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. C'est Jean qui nous apprend qu'il s'agissait bien de Pierre. On peut dire que ce geste partait d'un bon sentiment, mais Jésus avait annoncé plusieurs fois sa passion et que celle-ci correspondait à la volonté parfaite de Dieu. Troisième défaillance de la part de tous ses disciples. Alors que Jésus les pria 3 fois de suite de veiller avec lui et de prier, ils s'endorment à chaque fois. Et bien sûr, la défaillance de tous ceux qui arrêtent Jésus et ceux qui le questionnent, voire le souverain sacrificateur Caïphe et les membres du Sanhédrin, ainsi que les faux témoins. De l'autre côté, nous voyons le Fils de Dieu souverain et fort. Jésus, parfaitement Dieu. Mais nous voyons aussi le Fils de l'homme qui a peur, qui a besoin de ses amis. Jésus, parfaitement homme. Jésus supplie Dieu. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Dans les Écritures, comme dans le Proche-Orient ancien, la coupe est une métaphore du destin d'un individu ou d'une nation. Mais dans la Bible, il est question également de la coupe de la colère, un récipient déversant le jugement de Dieu. Et c'est la coupe qui faisait tellement peur à Jésus. Je crois que si l'on croit reconnaître dans ce passage la peur du Christ, de la souffrance et de la mort, on n'a pas tout compris. Des milliers d'humains ont déjà dû endurer beaucoup plus de souffrances physiques que Jésus a dû le faire. Non, Jésus ne va pas seulement mourir à notre place, mais il va devoir endurer la colère de Dieu et la séparation complète de Dieu. C'est une horreur dont nous ne savons presque rien. La séparation de Dieu, c'est l'enfer. C'est une solitude sans espoir que nous ne pouvons même pas imaginer. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» criera le Christ sur la croix. L'ultime cauchemar, Jésus l'a vécu pour nous, afin que chacun qui accepte ce sacrifice et met son espérance en lui ne doive jamais faire l'expérience de ce rejet total et définitif. Il n'a pas enduré tout ça parce que nous le méritons, au contraire. Il l'a fait parce que personne d'autre n'aurait pu payer le prix de nos péchés, pas même nous-mêmes. Il l'a fait aussi pour ses disciples qui s'endorment encore et encore. Et il l'a fait pour Judas, afin qu'il ait lui aussi la possibilité d'être sauvé. Et il l'a fait pour Pierre, qui était trop lâche pour avouer que Jésus était son ami. Et il l'a fait pour vous et pour moi. Dans les versets 63 et 64, nous lisons « Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Oui, Jésus, l'agneau de Dieu, sans faille ni défaut, Dieu fait homme, est le seul qui ait le pouvoir de racheter nos âmes de l'enfer et de la mort. Et il l'a fait, par amour pour nous. Ne rejetons pas son amour, mais reconnaissons-le comme notre sauveur. Ici, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.